MDM. MDM, votre radio locale.
Tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade. Saudade sem fim. Lá nasceu um boião, um estrela que cata brilhar. E na mão boião, areia que cata moiar. Espanhol Sorrachimá, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná, espanhol, nesse mundo fora. Sorrachimá, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
Beaucoup ce son quand il s'agit de te retrouver, Louise. Alors, ce Louise Lespard, donc je le précise peut-être pour celles et ceux qui nous rejoindraient en cours de route, ce nom associé désormais à La Clé des Champs, podcast qui s'est tracé une très jolie histoire qui n'a cessé d'évoluer. Il est l'heure de faire plus ample connaissance, Louise, pur produit landais, petite fille d'agriculteuriste. Tu lances La Clé des Champs en 2020, pendant le confinement, parce que ta vie parisienne t'amène à saisir une réalité entre l'image que tu as, toi, de l'agriculture et de celles et ceux qui la font, et l'image qu'en ont tes collègues et amis, il y a un gap énorme et tu as envie de le réduire.
Oui, exactement. J'ai passé 7 ans à Paris. J'étais directrice marketing dans une start-up. Donc, le truc le plus parisien que tu peux imaginer, baby-foot, PS4, ouais, les ordinateurs, l'open space et tout ça. Et en fait, effectivement, pendant les pauses, quand je discutais avec mes collègues du monde agricole et de l'agriculture, ils avaient en fait, des choses qui me paraissaient très naturelles pour moi, elles n'étaient pas du tout pour eux. Et à ce moment-là, je me suis... Mais ce qui est normal, hein, puisque quand on n'a plus d'agriculteurs dans son quotidien, bah, c'est des gens qui sont brillants, hyper sympas, mais quand on n'a pas, on n'a pas, on ne peut pas savoir. Et donc, c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait un vrai gouffre qui s'était installé entre le monde rural et le monde urbain.
Et donc, tu t'es dit, bingo, là, la bonne idée, ça va être de leur faire écouter en fait, le quotidien des agriculteurs et des agricultrices français.
Française. Oui, alors j'aimerais bien te dire oui à cette question, mais la vérité, c'est que j'étais confinée dans les Landes et du coup, je me suis retrouvée au chômage partiel parce que j'étais dans une start-up du tourisme. Donc, je travaillais à 10% une demi-journée dans la semaine. Et au début, je me suis surtout dit, qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper pendant tout ce temps? Et après, effectivement, un matin, je me lève et je me dis, ah, mais je vais faire un podcast sur l'agriculture. C'est pas fait. On n'entend pas les agriculteurs. Et sur ces podcasts-là, et je peux le faire. Et en fait, j'aimais bien le podcast parce que c'est des gens qui... Ceux qui les écoutent sont urbains déjà et ils prennent le temps d'écouter, ils ont envie de comprendre la complexité des choses. Mes épisodes, ils sont écoutés en moyenne 30 minutes quand même, donc ça laisse le temps et l'agriculture demande du temps pour être faite et pour être comprise. Donc je trouvais que c'était idéal pour toucher la cible que je voulais.
Et donc cette petite histoire a pris pas mal d'ampleur. Alors avant de parler prix et ministre, évoquons si tu le veux bien l'accueil qui a été réservé à la Clé des Champs. Donc tu nous parlais là d'une demi-heure d'écoute en moyenne. Qui écoute? Comment on écoute? Est-ce que tu as eu des retours sur cette création?
Qui écoute? C'est très mixte. Il y a des agriculteurs qui écoutent parce qu'ils aiment bien s'écouter entre eux. Il y a des citadins, évidemment. Et après, il y a une population que j'appelle plus mixte. Par exemple, des gens de Mont-de-Marsan ou des villes moyennes comme ça qui sont quand même proches du monde rural. Voilà.
Et sans y être forcément.
Sans y être forcément, exactement. Et ensuite, le retour est plutôt très positif. J'ai plus de 300 avis avec une note de 5 étoiles. Et surtout, le retour des agriculteurs est sympa. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que si je n'ai pas l'aval des agriculteurs, j'arrête, ça n'a pas de sens. Donc, je suis contente d'avoir cette caution morale un petit peu que je m'attache à garder, quoi. Je travaille pour la garder, j'essaye de travailler le plus sérieusement possible. Je travaille en moyenne 2 heures avant chaque épisode. Puisque je suis, tu l'as dit, issue d'une famille d'agriculteurs, mais je suis la citadine de la famille, hein. Je remets les choses à leur place. Donc ça me demande quand même beaucoup de travail, entre 2 heures, et puis quand j'ai enregistré avec le ministre, c'est 3 semaines de travail, parce que j'ai envie de vulgariser le monde agricole, mais sans en masquer la complexité, et qu'en fait, quand les gens, ils aient fini d'écouter l'épisode, ils disent « Ah ouais, en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais ». Et pour moi, si l'auditeur, à la fin de l'écoute de mon podcast, il dit ça, ben déjà, j'ai gagné quelque chose.
Et donc... Tu viens de réaborder ta famille d'agriculteurs, d'agricultrices. Est-ce que ils t'ont servi de public test? Est-ce que tu leur as fait écouter avant de lancer officiellement ce podcast?
Oui, évidemment, ils sont dans la boucle de tout. Donc, je leur demande un petit peu de temps, que ce soit pour choisir le nom, ou là, c'est ma famille et mes amis aussi qui m'ont beaucoup aidée, qu'ils soient du monde agricole ou du monde citadin. D'ailleurs, j'avais réuni 5-6 personnes pour qu'on trouve la Clé des Champs. Mais effectivement, oui... Ils m'écoutent tous les épisodes en avant-première, je leur demande leur avis, les parties qui sont un peu trop longues à écouter, celles qui sont sympas, et pour refaire les montages derrière et rendre le truc intéressant.
Et donc, citadine, directrice marketing, donc loin de cet univers du podcast, un peu plus proche de celui de l'agriculture, l'année même du lancement du podcast, La Clé des Champs est repérée et célébrée par Apple Podcast. Est-ce que tu penses, Louise, que ta formation t'a aidé à façonner et à contribuer à l'ampleur qu'a connue, la prise de cette ampleur qu'a connue La Clé des Champs?
Oui, complètement, parce que mon job, c'était de faire du marketing et de la communication. Donc, si tu veux, je lance le podcast pendant le confinement et puis je suis toujours au chômage partiel. Pour la petite histoire, j'ai quand même passé un an et demi au chômage partiel à 50%, ce qui m'a permis aussi de développer le podcast à côté. J'avais 50% du temps à y consacrer. Mais effectivement, une fois que je l'ai lancé, je me dis « bon, je vais faire un communiqué de presse, ça coûte rien, j'ai que ça à faire », entre guillemets, je le fais. Et finalement, ça a été beaucoup mieux reçu que ce que j'avais imaginé. Enfin, j'avais envoyé moi le communiqué de presse comme ça, mais en fait, c'est arrivé pile dans la période. Les agriculteurs sont là pour nous nourrir. Là, avril-mai, oui, les circuits courts, etc.
Ouais, le moment où les consommateurs, consommatrices, justement, ont eu cette envie de se dire, et puis presque pas trop le choix non plus, de se rapprocher des gens près de chez eux qui produisaient.
Exactement, exactement. Et du coup, moi, j'ai été dépassée par les événements parce que j'avais eu deux passages à Télématin, 6 pages dans Sud-Ouest Magazine. J'étais sur Sud Radio aussi avec Cécile de Ménibus. Enfin, je me suis complètement laissée embarquer par le truc sans avoir pris conscience que ça allait être reçu comme ça. Et effectivement, à la fin de l'année, Apple Podcast m'avait élu coup de cœur de l'année avec, enfin, dans le top 10 des coups de cœur de l'année. Donc ça a vraiment donné une notoriété au podcast et surtout, ça a donné de la visibilité à l'agriculture et au monde agricole sur une plateforme qui est dédiée aux citadins, quoi. Et ça, j'étais vraiment hyper contente.
Donc, c'est un peu de... Enfin, beaucoup de savoir-faire, des histoires qu'on ne racontait pas encore et puis aussi au bon endroit, au bon moment.
Oui, de toute façon, sur tous les projets qui marchent, on ne va pas se mentir, il y a de la chance. Donc oui, effectivement, il y a le bon endroit, il y a le bon moment. Mais tu as dit un truc important aussi que je n'ai pas dit. Il y a aussi le témoignage des agriculteurs, évidemment, qui est la base du truc. Hein. C'est eux qu'on entend pendant tout le long. Et c'est des gens qui sont passionnés par leur travail, qui du coup forcément sont passionnants et qui rendent le podcast intéressant. Donc en vrai, c'est vraiment eux qui font la matière de tout ça.
Et donc tellement intéressant, tellement passionnant et tellement coup de cœur de Apple Podcast qu'un jour... Le cabinet du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, t'appelle pour te dire « Hey, salut, on trouve vraiment que c'est bien ce que tu fais, est-ce que tu voudrais pas travailler avec nous ?»
Ouais, exactement. C'est à quoi ma mère me dit « Mais tu crois pas que c'est un canular ?» Merci maman. Mais oui, oui, un matin, effectivement, il y a l'attaché de presse du ministre qui m'appelle pour me proposer en me disant « Exactement, madame, est-ce que vous accepteriez d'accorder une interview à monsieur le ministre ?» Donc autant te dire que j'allais pas dire non, mais...
Jamais.
Voilà, et après, au début, j'étais surexcitée. Ensuite, je me suis rendue compte de l'ampleur du travail qu'il allait falloir fournir pour le faire. Parce que quand j'ai commencé à regarder les premières vidéos de Julien de Normandie avec le drapeau français et drapeau européen derrière, j'aime mieux te dire que j'ai pris un sacré coup de pression.
Petite goutte.
Ouais, une petite goutte où je me dis, mais ça fait un an que j'ai lancé ce truc, je le fais de manière bénévole. Qu'est-ce que je vais faire dans le bureau du ministre, quoi? Et j'ai travaillé 3 semaines. Les agriculteurs et les acteurs du monde agricole m'ont beaucoup aidée parce que je leur ai demandé quelles étaient les problématiques qu'il fallait que j'aborde en priorité, qu'est-ce qui les intéressait. Donc ça m'a permis de construire l'interview.
Et tu t'es fait aussi relais de ces gens du monde agricole qui avaient peut-être des choses aussi à faire remonter au ministre ?
Je ne sais pas si je me suis fait le relais, mais en tout cas, ça me paraissait essentiel de savoir quelles étaient les problématiques majeures actuelles que rencontrait le monde agricole et qui, dans leur quotidien, leur pesaient le plus pour adresser ces problématiques-là au ministre, parce que je voulais faire un épisode qui soit concret et pratico-pratique et pas quelque chose de long et de politique. Voilà. Et ce à quoi le ministre s'est plutôt bien prêté, je suis contente que ce soit lui qui soit ministre de l'Agriculture, parce que... Je l'ai trouvé pas langue de bois et surtout je l'ai trouvé, alors peut-être qu'il joue bien son jeu, mais je l'ai trouvé passionné et sincère dans ses propos et dans sa manière de défendre les agriculteurs. Donc en tout cas, c'était intéressant de faire cette interview.
Et donc de fil en aiguille, cette notoriété t'a mené aussi à construire et créer un podcast pour ce grand retour du Salon International de l'Agriculture. Là, j'imagine que c'est pareil, quand le Salon International de l'Agriculture te contacte pour te dire « Hey, tu veux pas faire un podcast pour nous ?» Un petit coup de pression aussi.
Alors, au départ, non. Et puis, au moment de leur envoyer le premier épisode, que d'ailleurs, tu m'as monté avec brio, je me dis « Mais en fait, c'est le podcast officiel du Salon de l'Agriculture. Mais si ça leur plaît pas du tout, et puis ça plaît pas aux gens. » Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience. Mais sur le moment, en fait, j'avais fait un épisode avec Valérie Leroy, qui est la directrice générale du Salon. Et donc, les choses se sont faites naturellement, c'est bien entendu. Je leur ai dit que, voilà, je lançais ma boîte, que notamment, j'allais créer des contenus pour les marques. Et donc, ça s'est fait très naturellement. Donc, le coup de pression, je l'ai pris au moment où il fallait envoyer l'épisode monté, le
moment
premier
du verdict.
Épisode. Exactement.
Et donc, finalement, le verdict a été plutôt positif.
Oui, plutôt positif. Le podcast s'appelle Agricultivez-vous. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et le premier épisode, je l'ai fait avec Jean Basta, qui est éleveur de blonde d'Aquitaine à Arzac et qui est toujours partant pour mes projets un peu farfelus. Donc, je le remercie.
Écoutez-moi, cette directrice marketing, si on avait eu le petit coup de magie encore là, ça aurait été franchement bien de l'avoir en sortie de cette démonstration. Donc, tu viens d'évoquer ta boîte que tu as montée, Louise. La Clé des Champs, c'est plus qu'un podcast maintenant. C'est une entreprise. T'as sauté le pas, tu te lances dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision?
Bah, ce qui m'a fait prendre la décision, c'est d'une part qu'avec mon conjoint, on quittait Paris quand même, que ça faisait 5 ans que j'étais dans mon entreprise directrice marketing, que je m'éclate à aller dans les fermes rencontrer les agriculteurs et que j'ai envie d'aller plus loin dans la pédagogie autour du monde agricole. Je suis pas du tout une spécialiste de l'agriculture, j'ai pas vocation à l'être. Par contre, j'ai l'impression que la valeur ajoutée que je peux avoir, c'est d'aider les deux mondes à parler entre eux. Et je me suis dit que ça, je pouvais le faire. Et une deuxième chose qui m'a encouragée à me lancer, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Parce que quand je vois les risques qu'ils prennent, eux, au quotidien, je le disais, c'est de vrais entrepreneurs qui font des prêts à la banque pour investir. Ils jouent avec le climat, ils ne maîtrisent pas toujours leur prix de vente. Et je me suis dit, bah, eux, ils le font et ils ont de vrais risques. Et c'est des métiers qui sont compliqués. Donc, moi aussi, je peux tenter l'aventure et me lancer à mon compte, quoi.
Et donc là... est-ce que tu as des attentes très particulières pour ce que tu vas faire ou des envies très particulières?
Oui, je vais faire deux choses.
J'aimerais vraiment bien des fois qu'il y ait des caméras dans ce studio parce que là, vous auriez vu ce sourire d'enfant. C'était vraiment trop mignon.
Oui, je vais faire deux choses. Donc la première, j'ai dit, je crée des contenus pour les marques. Donc on a parlé d'Agricultivez-vous, mais par exemple aussi pour la Chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine, d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et le Salon de l'agriculture de Bordeaux, je fais une série qui s'appelle Les Cafés Fermiers où je vais avec ma table, mes chaises et le thermos de café prendre une... post-café chez l'agriculteur, c'est dispo sur agriweb.tv. Et donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, surtout, j'aimerais lancer des formations, je suis en train même, puisque j'aimerais, puisque c'est en cours, mais des formations au monde agricole pour tous les professionnels qui travaillent de près ou de loin avec les agriculteurs. Donc ça peut être les banques, les assurances, le monde de l'agroalimentaire, parce que tous les jours, ils travaillent soit avec les agriculteurs, soit avec les produits issus du monde agricole. Et finalement, ils ont tous les mêmes parcours que les miens, prépa, école de commerce. Ils n'ont jamais eu la chance pour beaucoup de côtoyer des agriculteurs et de connaître les réalités du terrain. Et donc, mon objectif, c'est de faire cette formation avec une partie en ligne, à regarder des vidéos à la demande où les gens apprennent plus sur l'agriculture avec des experts que je remercie qui ont joué le jeu et qui expliquent l'agriculture française. Et ensuite, surtout, d'aller passer une journée à la ferme avec l'agriculteur. Et moi, de partager le revenu de la formation avec l'agriculteur, avec comme volonté aussi de leur apporter un revenu additionnel, parce qu'il y a quand même des moyens, il y a de l'argent qui tourne autour du monde agricole et il n'est pas toujours capté par les agriculteurs et même très peu capté par les agriculteurs. Et une de mes volontés aussi, c'est d'essayer de capter cette valeur ajoutée, de la ramener à ma petite échelle.
Oui, donc finalement, ce qui t'a donné l'envie à la base de créer ce podcast, c'est-à-dire réduire cette distance qu'il y a entre les consommateurs, consommatrices et les agriculteurs, agricultrices, tu l'étends en fait à tous les gens qui se sont éloignés du monde de l'agriculture et là dans du coup le secteur professionnel, tout en toujours valorisant les agriculteurs et les agricultrices.
Ouais, exactement, complètement. En fait, j'ai fait jusqu'à présent écouter l'agriculture et maintenant j'ai envie de la faire vivre, c'est l'objectif.
Est-ce que c'est pas la plus belle phrase pour conclure? Elle est vraiment dans le marketing, cette dame. Alors, Louise, on va retrouver un agriculteur que tu connais bien. Il s'agit d'Hervé Lard, oui. Éleveur de blondes d'Aquitaine et basadaise. Et pour celles-là qui l'ignoreraient, ce sont des vaches. Mais tu le connais bien puisqu'il est le papa d'Élodie et Magali Lard, qui sont deux très bonnes amies à toi.
Oui, qu'on salue.
Qu'on salue, évidemment. Le petit monde de l'agriculture landaise est fait de belles amitiés. On va l'entendre ça aussi avec Hervé. Louise, mille merci d'être venu partager ton expertise avec nous ce matin dans ce 8e numéro de Margot Guette. On va danser un instant et on se laissera conter la vie de la ferme du Prince par Hervé dans la foulée.
MDM. MDM. Bienvenue sur la moins pénible des radios.
She wanna be my savior. Her daddy always wonders about my family's behavior. She wonders about my flavor, them chocolate coated layers. She looks me up and down, her pussy melting like a glacier. Bodacious belly flopper, her daddy flies a chopper. She talks about them charities and work he has to offer. They dining, eating lobster, gold accents on her romper. Her hand soaked in that metal bowl, absorbing all its copper. Shower caps and faucets, water in the sockets. Nice to girls with stringy hair, I like them in a bonnet. Super suds not flossy, skin not gleaming glossy. Slather soupy liquid on
them legs because they frosty. Persistent halitosis, her plexing braggadocious. Chunky, clunky, clatter coupled with that new explosive. Critters always jibber jabber about her candy coatings. Jitches, kitty litter, wild kittens smell like sausage. That's nasty, that's gross, all them pineapples a hoax. That's nasty, that's gross, all them pineapples a hoax. That's nasty, that's gross, all them pineapples and hoes. That's nasty, that's gross, all them pineapples a hoax. Climbing up them rankings, attitude untamed and getting kind of popular among them local flagrants. Trampling temptations, tugging at your patience, clogging up those curtain clocks, luxury turned latent. Spread them legs like butter, squirting from your utters. Creaming extra heavy, cause my head game extra gutted. Bitch, I never studied, don't you ever mutter. Nothing on my people, oh, I hit you with the red, da 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 da.